un peu au départ, j'avais un peu de prévention, de difficulté. C'est que le thème du développement urbain durable, qui évidemment est un mot qui est très utilisé, etc., dans les faits, et notamment en termes de politique urbaine, c'est vraiment aller au-delà des mots, quoi, c'est vraiment délicat. Donc, en fait, vous allez voir que mon problème, c'est comment traiter du développement durable, du urbain durable, alors que c'est pratiquement pas quelque chose qui est approprié. Donc, c'est un premier, une première difficulté. Puis la deuxième difficulté, c'est que dans ma recherche, c'est pas quelque chose que j'ai jusqu'à présent abordé d'une manière frontale, et j'ai même pas vraiment encore réussi, contrairement à ce que Roland proposait l'autre jour, j'allais dire un peu une grille d'analyse ou des principes d'analyse théorique pour aborder ça. Alors moi je vais quand même présenter des éléments là de réflexion, mais ça hésite un peu entre la contextualisation, l'analyse de beaucoup de choses, des retours sur des travaux que j'ai faits précédemment et où je me pose la question rétrospectivement du développement urbain durable et de ce qu'on peut en faire d'aide scientifique, plus que un vrai cadre de proposition analytique.
Et donc c'est dans l'idée que tu veux développer des travaux sur ça, mais tu ne sais pas encore dans quel sens vraiment le faire.
Voilà.
Toute la qualité,
je vais en passant expliciter le type de mobilisation sur lequel je vais m'engager. Parce qu'il y a de fait des projets qui ont plus ou moins rentrent sous cette étiquette. Et c'est vrai que de ma part, c'est plus une manière de tordre un peu mon parcours pour répondre aussi à des possibilités de financement. Parce que bon, plus concrètement, c'est aussi comme ça que j'y viens. Mais avec un certain nombre de difficultés. Alors, donc, première idée, c'est qu'effectivement, ce thème du développement urbain durable, il apparaît très largement comme un thème imposé, notamment par des acteurs extérieurs aux scènes urbaines et aux scènes de l'aménagement urbain dans les pays du Sud, et il est notamment imposé par les bailleurs de fonds qui, dans une logique à la fois d'incitation mais aussi de conditionnalité de l'aide, posent des nouveaux objectifs, c'est-à-dire posent le principe du développement urbain durable et du développement durable en général, hein, comme un nouveau cadre, un nouveau référentiel de l'action publique. Alors, c'est particulièrement net dans le projet de l'Union pour la Méditerranée, où il y a par exemple tout un volet sur le développement de l'énergie solaire, par exemple, l'origine solaire. Mais c'était déjà dans le cas du processus de Barcelone, donc, qui était l'autre programme de l'Union européenne pour les pays méditerranéens. Des objectifs autour de la desserte en eau, de l'assainissement, etc., étaient aussi très présents, et dans une perspective qui était orientée vers ces enjeux de développement durable. Le thème du développement durable figurait fortement. Et du coup, c'est par l'intermédiaire de ces bailleurs de fonds, il y a un certain nombre de mécanismes, de propositions, de cadres d'action qui sont proposés, ou d'instruments. Bon, le meilleur exemple des instruments, c'est ce qu'on appelle le marché des droits carbone, hein, donc, c'est-à-dire l'idée pour participer au financement de nouvelles sources d'énergie, les pays du Sud peuvent vendre des équivalents carbone qui vont leur permettre de financer ces projets. Et il y a sans doute d'autres types de mécanismes. Alors, en perspective, c'est évidemment l'idée que le développement durable doit représenter l'occasion d'une nouvelle transversalité de l'action publique qui est implicitement ou d'ailleurs parfois clairement posée par les bailleurs de fonds. Mais ça reste pour l'instant un énoncé plus que un objectif vraiment constaté dans la réalité des actions menées. Et
juste si vous voulez, on peut t'interrompre.
Bah oui, pourquoi pas.
Qu'est-ce que tu mets sur les bailleurs de fonds? pour...
Alors, bailleurs de fonds, donc, par exemple, l'Union pour la Méditerranée, donc l'Union européenne, c'est aujourd'hui un des grands bailleurs de fonds. Ouais. Voilà. Il y a donc d'autre part...
C'est à la fois les collectivités et les investisseurs privés qu'il peut y avoir ou...
Oh, non, alors je vais en parler tout à l'heure des investisseurs privés, mais là je parle des bailleurs de fonds internationaux, c'est-à-dire les agents de, enfin, des banques, Banque mondiale, FMI, en fait ils ne rentrent pas tellement dans ces trucs où il avait par exemple tous les acteurs bilatéraux, tels que l'Agence française de développement, la GTZ allemande, les USAID, tous ces organismes qui sont des partenaires financiers des pays du sud de la Méditerranée, qui sont souvent quand même très... des gros besoins de financement, hein, mettre en avant ces pays. Et donc c'est à ceux-là que je fais allusion, hein, que ce soit de l'aide bilatérale ou de l'aide multilatérale. Je reviendrai sur les acteurs privés dans un instant. Alors, comme je disais, aussi, il y a une question, pour l'instant, qui n'est pas encore tout à fait claire. On parle là de développement durable, de mécanismes qui sont orientés vers le développement durable, et la thématique autrement dit, le développement urbain durable, elle est encore loin d'être claire. Et en particulier, une des questions qu'on peut se poser, c'est comment ces mécanismes de développement durable vont impacter l'action publique urbaine, comment ça va la recomposer. Donc, il ne s'agit pas simplement de chercher un développement urbain durable, même énoncé comme tel. On va voir que c'est quand même un peu problématique. Alors, cela dit, on commence à avoir quelques travaux de collègues qui abordent cette question-là d'une manière frontale. Donc, Pierre-Arnaud Bartel, par exemple, qui est actuellement chercheur au CEDEJ, essaye de s'occuper de cette question, et je suis en relation avec lui. Donc, il a organisé là, un colloque très récemment qui essayait de réfléchir aux enjeux de la ville durable, à la fois aux enjeux opérationnels et aux enjeux scientifiques. Et donc, il a réuni un plateau à la fois de chercheurs et d'opérationnels qui ont planché un petit peu sur ces thématiques avec l'idée de est-ce qu'on assiste à la naissance d'un nouvel urbanisme. Donc, il y avait un peu des opérateurs et des chercheurs qui apportaient un regard croisé sur, par exemple, l'émergence de programmes ou de projets d'éco-quartier. Il y a quelques... C'est très frémissant, quoi. Il y a quelques endroits, à Casablanca, au Maroc, ou encore à Rabat aussi, un petit peu... en Tunisie, il y a aussi quelques développements dans la banlieue du Caire en Égypte qui s'affublent de ce label de Sustainable Development, des choses comme ça. Deuxième niveau d'interrogation, c'est aussi en termes de planification urbaine, comment ce thème est-il mobilisé, et puis là c'est aussi plus propre aux pays concernés par le pays du Sud, comment, alors qu'un des grands problèmes que à résoudre, c'est la question des quartiers informels, comment les améliorer, comment les gérer, comment cette thématique-là vient se télescoper dessus. Et donc, voilà. Alors, les premiers résultats tels qu'ils sont sortis de ce colloque, pour l'instant, le livre n'est pas paru, mais Pierre Arnaud a fait un rendu très intéressant des séances. Bon, ce qui apparaît, c'est que on constate justement un rôle moteur des acteurs privés du style promoteur immobilier. Éventuellement d'ailleurs internationaux qui construisent, qui investissent dans des quartiers nouveaux, dans des sortes de méga projets, que ce soit à Casablanca, Rabat, Tunis, Beyrouth, enfin d'autres qui ne se revendiquent pas trop du mais au Caire, oui. Donc eux, ces acteurs privés, mettent en avant l'idée d'un urbanisme vert, en faisant un argument un peu marketing. Notamment en termes de tout ce qui est autour du greening, c'est-à-dire de l'espace public devenu vert, mais aussi autour de parfois de l'introduction de nouveaux procédés plus environnementaux, tels que le recyclage de l'eau, et même on commence à avoir apparaître, mais c'est très limité, des réflexions sur le captage de l'énergie solaire, et puis surtout à l'échelle des immeubles, il y a des réflexions sur l'efficacité énergétique. Bon, on est dans un pays où, évidemment, la climatisation fonctionne à haute dose, donc c'est des éléments qui sont introduits. Mais ça reste, finalement, c'est limité. Il y a beaucoup de marketing autour de ça, mais ce n'est pas encore très, très opérationnel. Le deuxième grand résultat qui sort de ces communications, c'est que l'idée du développement durable ou du développement urbain durable est vraiment fait partie de la, des discours des États pour transformer la ville, et cela en conjonction justement avec les bailleurs de fonds. Donc en Syrie, en Jordanie, on va avoir en Tunisie aussi, les États qui disent c'est très important, il faut se mobiliser sur cette question-là, et il faut changer nos pratiques, et éventuellement ceci avec l'appui donc, de bailleurs de fonds qui vont financer des programmes Energy Efficiency ou des choses comme ça. Donc il y a une injonction autoritaire, et on est dans le cadre d'États autoritaires, hein, faut-il le rappeler, c'est parfois très autoritaire, donc ça signifie que soudain on a un décret, une loi, une injonction qui propose de transformer les méthodes d'action d'une manière qui vient vraiment d'en haut, éventuellement en s'appuyant sur l'expertise de cabinets de consultants étrangers, sans forcément une véritable articulation avec les pratiques locales, les pratiques professionnelles locales. Alors, le dernier résultat remarquable aussi, c'est que toutes ces réalisations, pour l'instant, débouchent sur des, toutes ces injonctions ou ces manifestations d'intérêt débouchent sur des réalisations qui sont vraiment très limitées. C'est vraiment... on parle de la tête d'épingle qui cache la... qui ne la cache pas, quoi. Mais si on louche dessus, on voit que ça, au risque de ne pas voir que bon, tout le reste fonctionne d'une manière qui est pour l'instant totalement différente. Alors, aussi, ce qui m'intéresse de remarquer, c'est que dans ces premiers types de mobilisation, on a une configuration qui est assez inverse du schéma qu'on peut observer en Europe du Nord concernant l'avènement d'un nouvel urbanisme durable, où on a plutôt souligné généralement l'importance des mobilisations collectives, que ce soit des acteurs associatifs, des nouveaux acteurs politiques issus du mouvement écologiste, qui ont réussi, en accédant à des échelons locaux, à lancer des premières expérimentations, où donc le local était aussi vraiment quelque chose de très important. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'exemple du Grenelle ou des choses comme ça, on voit qu'il y a un relais de ces premières initiatives à un niveau national et à un niveau étatique. Mais ça n'empêche que dans le schéma, disons, tel que Cyril Emelianoff ou des gens comme ça ont pu le décrire, on a plutôt l'idée que c'est par le local que les innovations se font. Alors que là, notamment avec cette injonction autoritaire des États en conjonction avec les bailleurs de fonds, c'est de l'extérieur et du haut que se font, en tout cas, les injonctions. Les réalisations, c'est encore une fois difficile à voir. Mais on voit bien qu'on est dans quelque chose d'assez... un schéma qui est assez différent et qui donc pose question. Alors, à partir de là, j'essaye d'identifier une première série de remarques et de questions. Si j'essaye de faire de cette question du développement urbain durable un objet de recherche, je me dis que, tout d'abord, j'ai essayé de sortir cette phrase-là, c'est le U du développement urbain durable en question. Parce que comme je l'ai dit, ben, la première chose qui m'apparaît, c'est que il n'est pas du tout évident que le niveau urbain soit un niveau pertinent d'investigation ou d'observation. Et a fortiori, il n'est pas du tout évident que les acteurs urbains, les acteurs locaux, soient les bons acteurs à observer. Alors, c'est bien sûr lié à une organisation institutionnelle particulière, à des logiques politiques particulières, mais néanmoins ça nous pose question en tant que chercheur, si on a l'injonction de s'intéresser au développement urbain durable, telles que les questions de recherche sont aujourd'hui formulées, on nous demande que notre recherche soit utile pour des opérateurs urbains, des acteurs urbains. Bon, le problème c'est que justement, qui sont les acteurs urbains? Il y a le U là, il est vraiment en question. J'aurais pu mettre entre parenthèses, ça aurait été aussi facile. Premièrement. Deuxièmement aussi, quelles sont les politiques ou les formes d'action publiques qui sont concernées ou qui sont supposées être mobilisées dans le cadre de la réalisation du développement urbain durable. Alors, évidemment, si on transpose en quelque sorte le schéma d'analyse et les recherches, les premiers résultats de recherche qui sont apparus en Europe ou aux États-Unis, on dit qu'on va regarder justement les écoquartiers, on va regarder les expériences pilotes de mini minime urbanisme ou de choses comme ça. Et là, bon, comme je l'ai dit, c'est sans doute assez ténu. Et donc moi, j'essaye de me demander, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'interroger ces questions-là de biais d'une autre manière, parce que sinon, on parle de rien. Et donc moi, c'est un petit peu une des choses que je vais essayer de vous proposer. Troisième enjeu, c'est aussi, bon, j'ai dit quelle échelle de l'action publique pour le développement durable, et donc notamment, est-ce que l'échelle urbaine est une échelle pertinente? Et en fait, j'ai mis un petit résumé en tête, mais j'aurais dû mettre plutôt un implique, parce que c'est plutôt que justement la question de la territorialisation du développement urbain, du développement durable, est un enjeu de la recherche, c'est-à-dire à quel niveau vont s'effectuer les négociations pour la mise en œuvre de ces politiques et à quel niveau ça va se stabiliser en quelque sorte, et aussi qui sont les acteurs et venant de quel type d'échelon qui vont participer à la négociation de ces politiques publiques. Donc vraiment, au lieu d'avoir ce U comme un point d'observation fixe, je pense qu'il faut vraiment le considérer comme un point problématique. Alors, à partir de là, ce que je voudrais faire, c'est balayer brièvement quelques recherches que j'ai pu faire justement ces dernières années, notamment ici, dans le cadre de collaboration à l'IUL, pour voir comment, finalement, des thèmes qu'on peut rattacher à la thématique du développement urbain durable sont sortis, et quels sont les premiers résultats qui ont pu être tirés à propos de cela. Alors, très brièvement, donc tout d'abord, la recherche sur l'eau et l'électricité au Liban que nous avons faite ici avec Cécile, qui a justement travaillé sur la gestion de l'eau, des services urbains dans une petite ville libanaise, et qui nous a permis de réfléchir à la réforme de la gestion de l'eau au Liban. Moi, de mon côté, j'avais travaillé sur l'électricité au Liban, donc on a tiré un article de synthèse qui est paru dans Flux, et on peut dire que notre article étudiait finalement une sorte de tension entre tout d'abord ce que j'appellerais une territorialisation un peu fragmentogène observée sur le terrain, résultat d'une guerre, résultat d'une fragmentation sociale très forte dans le pays, donc qui conduit à finalement à avoir des sortes d'entités de fait, des territoires plus ou moins hérités de la structuration milicienne. Entre ces différents territoires, l'action de l'État, bien souvent, a beaucoup de mal à faire le lien. Donc, une territorialisation politique de fait, fragmentée. Et par rapport à ça, ce que nous avons observé, c'est à travers les réformes des services urbains, et notamment à travers la réforme de la gestion de l'eau, c'était la tentative de l'État, avec en appui des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale et l'Agence française de développement, de définir un nouvel échelon pertinent pour gérer l'eau, c'est-à-dire en fait de remonter d'un cran. L'eau était gérée à un niveau relativement local, il s'agissait de le remonter d'un cran en créant des agences à l'échelle disons, provinciale qui seraient chargées de gérer l'eau dans les différents espaces d'avoir une gestion plus intégrée de l'eau. Enfin, le principe, c'est un peu celui-là, et éventuellement avec, en ligne de perspective, une privatisation à venir. Mais dans un premier temps, il s'agissait plutôt d'une recentralisation, d'une reconcentration de la gestion de l'eau. Donc, à travers cette première idée, c'est justement l'idée que la territorialisation de l'action publique dans un domaine qui touche quand même au développement urbain durable est un enjeu qui n'est pas du tout stabilisé. Deuxième élément qu'on peut aussi tirer de cette recherche qui nous permet d'aborder aussi la question du développement urbain durable, c'est l'émergence d'une réflexion sur les services décentralisés, sur la décentralisation technique de ces services. Donc, en l'occurrence, deux thèmes, celui de l'assainissement, donc, que Cécile a brièvement abordé dans sa recherche, puis dans d'autres occasions, j'ai eu l'occasion de croiser. Donc, en fait, le Liban, en dehors des villes, et même en dehors des villes-centres, on va dire, l'assainissement est très mal réalisé, donc, surtout par dans les puisards ou dans les rivières. donc, une des réflexions qui est fortement poussée, notamment dans le cadre de la coopération européenne, avec l'idée de préserver la pollution de la Méditerranée, c'est de dire qu'il faut trouver des nouvelles solutions d'assainissement. Bon, d'une part, on développe de l'assainissement centralisé pour les villes, mais pour l'espace rural qui est assez densément occupé, des réflexions ont été proposées pour de l'assainissement non centralisé, connu sous ce doux nom de SPANC. Alors, ça veut dire quoi exactement? Ligue d'assainissement
non collectif.
Alors, même en France, c'est quelque chose qui est aujourd'hui vraiment discuté dans le cadre urbain. Et donc, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que par l'intermédiaire d'une coopération décentralisée, notamment de la région Rhône-Alpes et du Grand Lyon, il y avait une tentative de proposer ce type d'action pour les collectivités locales libanaises. Et qui s'est heurté à une incompréhension totale et les Libanais ont pris ça comme une sorte d'injure parce qu'ils ont eu l'impression que c'était un système pour le tiers-monde, un système incomplet, n'obéissant pas aux normes du réseau centralisé, etc. Et donc c'était assez intéressant d'observer quelque chose qui est de l'ordre d'une incompatibilité ou d'une incompréhension culturelle à cette idée du développement urbain durable. Alors, le deuxième objet un peu similaire qu'on peut identifier dans cette perspective, c'est les générateurs privés d'électricité. En fait, le Liban, ils ont une coupure électrique. Et donc, il y a au niveau local, enfin au niveau des quartiers, au niveau des immeubles, les gens ont investi dans des petits générateurs qui fonctionnent au diesel et qui relient 10 appartements, un petit quartier de 100 maisons, ou des choses comme ça. Alors, il y a eu un travail très intéressant qui a été fait par Pauline Gabillet, qui est une étudiante à M2 de la Sciences Po, là, que j'ai suivie. Et alors, en quoi est-ce que ça touche le développement urbain durable, si on veut? C'est que ces objets sont des objets extrêmement polluants. Et donc, il y a vraiment un problème de santé publique à régler. Et puis, c'est aussi, par ailleurs, un problème social, parce qu'en fait, ça renchérit beaucoup le coût de l'électricité, et donc pour les habitants, notamment les plus pauvres, c'est problématique. Hein. Et donc, cette double question, disons, sanitaire et sociale, fait que, de plus en plus, cette question est saisie par les municipalités libanaises, qui jusque présent, c'est un service qui est complètement informel, c'est organisé de manière complètement non réglementaire, non légale. Et récemment, depuis 2-3 ans, les municipalités cherchent à intervenir, à réguler l'emplacement de ces petites machines, à éventuellement tenter de réguler les prix, etc. Donc, quelque chose qui est assez intéressant. Et donc, bon, je n'entre pas dans les détails, mais ces deux petits exemples, les SPANC et les générateurs privés, avec donc des degrés de réussite très différents, nous font pointer la question de l'investissement des municipalités, donc des acteurs locaux dans la gestion des services urbains et notamment dans l'introduction, la régulation de l'environnement au niveau local. Mais qui est quelque chose qui est en train de se construire pour l'instant. Il n'y a pas du tout de schéma d'action global, on est complètement dans une... Et on est aussi dans la négociation d'un rapport avec l'État qui en fait n'a pas abandonné toute prétention à réguler ce secteur. Alors, pour l'assainissement, justement, il y a un enjeu, parce que ce sont ces nouvelles autorités provinciales de l'eau qui sont en conflit avec les municipalités pour savoir qui a le droit de réguler ces questions-là. Et pour les générateurs privés, c'est pareil, théoriquement, c'est l'État qui régule l'électricité et le niveau local n'a rien à faire là-dedans. Donc il y a aussi des relations complexes à observer.
Mais du coup, quelle position elles avaient, les collectivités locales dans lesquelles vous avez étudié?
Alors,
elles voulaient intervenir ou ça les arrangeait bien que ça se fasse tout seul par ailleurs ou comment
Surtout, elles étaient en opposition avec ce type de proposition et elles souhaitaient plutôt d'autres modèles d'intervention. Mais sans avoir réellement les financements, c'est un peu pour de toute façon parvenir à leur fin. Alors que
existe-t-il ?
En fait, ce qui est important peut-être aussi, c'est que comme l'assainissement avant était géré au niveau local, mais qu'en fait il n'était pas géré parce qu'il n'y avait pas de finances, du coup il y a eu une recentralisation, enfin oui c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, il y a eu une recentralisation. Donc avant elles avaient quand même une compétence qu'elles n'exerçaient pas de fait.
D'accord.
Je sais pas si c'était ça la question.
Mais du coup c'était une protestation contre cette recentralisation.
Ouais, d'accord.
Mais bon, par exemple pour l'électricité, on observe des cas très, très divers. Il y a des endroits où on a des municipalités qui se sont vraiment investies dans la question de la régulation électrique de ces générateurs, en faisant même pratiquement un argument électoral. D'autres endroits où c'est très, très flou. Donc il y a des grandes diversités d'approches parce que, bon, il n'y a pas de cadre réglementaire et tout dépend de formes de mobilisation collective, justement, qui ne sont pas. Pas encore institutionnalisé.
Et comme ils s'investissent là-dedans, les collectivités locales, c'est pour quelles raisons ? Enfin, ouais. C'est parce que c'est la nuisance, est-ce que c'est des raisons qu'on pourrait qualifier de soucis de développement durable, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi eux, ils adressent le problème des générateurs ?
Ben, alors, ce qui est certain, c'est que il y a, dans certains cas, un problème environnemental ou sanitaire qui est réel et qui est posé. Mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui vont justifier cet investissement dans ces questions-là. Par exemple, un des gros problèmes, c'est par exemple les variations de prix. C'est-à-dire qu'à la limite, sur un même territoire, les opérateurs privés font des prix différents ou ont des pratiques malhonnêtes, c'est-à-dire qu'ils te font payer, mais ils ne te donnent pas l'électricité quand l'électricité de l'État s'éteint, ou des choses comme ça. Donc, il y a des protestations et des mouvements collectifs locaux qui conduisent à ce type de revendication. Donc oui, ce n'est pas simplement un enjeu sanitaire, c'est aussi un enjeu politique et social, hein, bien sûr. Alors, donc voilà, à travers l'électricité occupante, quelques manières d'aborder ces enjeux de développement. Alors, autre exemple, brièvement, en Jordanie, j'ai étudié les réformes de l'électricité. L'idée, c'était au départ de faire une sorte de parallèle entre la Jordanie et le Liban, puis en fait, le cas jordanien pour l'électricité est vraiment très différent. On a l'exemple là d'une sorte de privatisation typique, vraiment le schéma néolibéral, où on prend le secteur de l'électricité qui était nationalisé, et puis on le privatise pratiquement complètement. On pratique ce que les Anglais appellent unbundling, c'est-à-dire on sépare les différents. L'ancien opérateur public en différents métiers, la production d'électricité, la distribution de l'électricité, le transport de l'électricité, on met un régulateur, voilà, c'est le schéma anglo-saxon de néolibéralisation. L'État se retire et même il veut mettre la fin aux subventions tarifaires. Bref, on a une évolution vraiment typique de la. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer d'observer les incidences locales de ce schéma de privatisation, parce que, en fait, il se trouve qu'il y avait, dans l'organisation antérieure, il y avait quand même des sociétés de distribution qui étaient locales, qui n'étaient pas étatiques, et qui étaient en fait des sortes de. C'était des sociétés privées. Détenu à Paris, pas à Paris, mais avec une part assez importante pour les municipalités, qui siégeaient donc au conseil d'administration, en détenant dans un cas 25%, dans un cas 12%, voilà, donc avec voix quand même importante dans la gestion de cette société, et d'autre part des acteurs étatiques. Alors, l'État possédait une part de ces sociétés locales, d'électricité, et puis des acteurs privés aussi. Bon, et maintenant, l'État a vendu toutes ses parts, ce qui fait qu'on change la gouvernance de ces entreprises, où il reste une petite part municipale, un quart ou un peu moins des actions, et puis le reste, ce sont des acteurs privés. Et donc, l'enjeu, c'est que la voie que les municipalités et les acteurs urbains, enfin, les acteurs politiques locaux pouvaient avoir dans la gestion de cette entreprise, eh bien, cette voie apparaît affaiblie. Parce que, par exemple, les acteurs politiques locaux pouvaient faire des pressions pour qu'on emploie des gens dans cette société. Donc, la question
question de l'emploi, par exemple, est assez importante. Bon, il y avait aussi des petits enjeux sur la réalisation de l'éclairage public, des choses comme ça, qui se négociaient, j'allais dire, entre les acteurs et notables locaux et le siège de l'entreprise qui était de toute façon tenu par quelqu'un qui était aussi un notable local, qui tenait compte de la voix de l'État. Bon, c'était une petite société politique locale. Avec la privatisation, désormais, c'est un acteur étranger, un capital étranger qui possède ces sociétés locales d'électricité. Et donc lui, il a des objectifs de rentabilité qui sont différents. Alors pour l'instant, d'après les entretiens que j'avais faits, il n'y avait pas eu énormément de changements, mais on sentait bien que les acteurs étaient un petit peu en attente, craignaient des affrontements, et c'est clair que pour les municipalités, en tout cas, la ressource de l'emploi a disparu. Donc, d'une certaine manière, c'est un levier d'action sur la société locale qui disparaît. Donc, on a là, avec ces réformes de l'électricité, quelque chose qui touche à... finalement, l'autonomie locale, c'est-à-dire les entreprises de services publics comme ressources locales, ben, c'est aussi un peu mis entre parenthèses, ont mis en question. Alors, ça ne touche pas directement le développement urbain durable, mais tout à l'heure, je vais quand même vous montrer que ça, il peut y avoir des incidences. Troisième exemple d'une recherche récente aussi, c'est une recherche que j'ai faite avec un collègue tunisien sur la gestion publique de l'eau potable dans ce pays et... la place que l'alimentation hors réseau pouvait y tenir. Alors, par alimentation hors réseau, ce que je veux dire, c'est l'alimentation par les eaux de pluie, la collecte des eaux de pluie comme moyen possible voie du développement urbain durable dans un contexte de grande pénurie hydrique. C'est-à-dire la Tunisie, en fait, cette ville où j'ai travaillé, c'est Sfax, c'est une ville qui est située en zone aride. De 200 mm par an, donc les eaux sont transportées sur des centaines de kilomètres depuis les montagnes et le nord du pays. Donc on pourrait imaginer que la collecte des eaux de pluie puisse représenter un enjeu intéressant en termes de développement urbain durable. Et ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que ce n'est pas du tout le cas. En fait, ce que nous avons remarqué, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que en Tunisie, contrairement à beaucoup de pays pauvres du sud, on a une gestion de l'eau qui est très efficace et qui est effectuée par un acteur public, c'est-à-dire un opérateur public national, qui gère parfaitement la distribution d'eau avec peu de pertes, qui dessert pratiquement toute la population, y compris les plus pauvres, avec un système de tarification qui fait que les plus pauvres sont relativement bien traités, ils ne payent pas trop cher. Et en fait, c'est clairement lié à un souci politique de l'État tunisien, qui est un État très autoritaire, de surtout éviter les troubles sociaux dans les banlieues, et notamment le développement du service. Donc, ils se servent du développement des services publics et du maintien de services publics assez efficaces dans ces banlieues pour limiter la contestation islamiste. Par opposition, par rapport à la situation du Maroc, où justement le mauvais état des services publics est clairement un des enjeux de la mobilisation islamiste. Donc, ce développement à fond du réseau public, y compris avec des subventions, est assez intéressant à observer. Et nous avons conclu que justement, la non-prise en compte du système hors réseau de collecte des eaux de pluie devait se comprendre à la lumière de cette idée du réseau comme un idéal technique, mais aussi finalement un idéal politique fort, qui devait résoudre tout seul les besoins sans avoir recours donc, à des thématiques et des méthodes innovantes du développement urbain durable. C'est à la fois un idéal technique professionnel, mais aussi un idéal, on va dire, d'intégration nationale, qui est présent à travers l'idée du
en termes de territorialisation des cartes de la pouvoir finalement
aussi absolument oui la Tunisie étant un des pays où justement la décentralisation ne se fait pas du tout les autorités locales sont très dépendantes de pouvoir
organisant bien ce genre de choses gens ne ressentent pas la nécessité d'une autre échelle de décision plus bas.
On peut dire ça un peu comme ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y a un problème, c'est toujours le président de la République qui est à recours, et il se déplace, il est un peu comme les anciens rois de France qui se déplaçaient toujours dans les bonnes villes, etc. Il se déplace en personne, et s'il y a un problème, il le résout, c'est-à-dire que soudain, il dit quelque chose, et il dit « Ah oui, non, pas du tout, on va faire autrement », et donc il apparaît comme le sauveur, hein, et c'est très mis en scène de cette manière-là.
Et
C'est-à-dire que la municipalité n'a vraiment pas eu un rôle important là-dedans. Alors, l'évaluation du projet d'usine de biogaz a fait ressortir deux problèmes et un potentiel, c'est assez intéressant à signaler. Dans les problèmes, donc, il y a eu un grand problème de calendrier, c'est-à-dire que c'est un projet qui devait durer 3 ans, puis en fait, faute de coordination entre les différents acteurs, ça a duré 10 ans. Deuxièmement, la réplicabilité de l'expérience, qui était au départ un des objectifs de cette usine pilote, n'est absolument pas préparée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui permet à des opérateurs comme des usines au biogaz de fonctionner ailleurs. Il n'y a pas réellement de cadre réglementaire. Le seul point positif, c'est que la société qui a géré cette usine de biogaz, finalement, on considère qu'elle est opérationnelle, qu'elle peut travailler. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont fait l'évaluation disent, du coup, cette société pourrait servir, pourrait être une sorte de prestataire de service pour aller installer des usines de biogaz dans d'autres villes de Jordanie. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est la municipalité d'Amman qui est le prestataire, qui est le propriétaire de la société, ça voudrait dire qu'on court-circuite des autres municipalités avec les compétences de la municipalité capitale. Donc c'est un drôle de schéma où au lieu de valoriser, de rendre de l'empowerment des autres municipalités, on va plutôt proposer une sorte de tutelle par la municipalité d'Amman. Donc c'est un peu c'est un schéma qui pose question, qui n'est pas mis en œuvre, mais qui suscite question. La deuxième tendance qu'on observe concernant la réalisation de cette transition énergétique, c'est le fait de confier à des opérateurs privés, par une sorte de délégation, la mise en œuvre de certaines de ces opérations. Par exemple, il y a des projets d'usines, de centrales solaires, de différents types, photovoltaïques et puis à concentration solaire, thermique, pour une petite ville qui s'appelle Man, qui est au sud d'Amman. Et donc, en fait, cette initiative de construction d'usines solaires va s'effectuer dans le cadre d'une zone industrielle qui a un statut spécial, c'est un statut de development area, qui permet, en fait, de réaliser des investissements qui sont exemptés de nombreuses taxes ou la législation du travail ne va pas s'adapter. Bon, une sorte un système, on va dire, un peu de zone franche. Et aussi, où tout est piloté et toute l'initiative est coordonnée par un acteur privé. C'est-à-dire que ce n'est pas la municipalité de Man qui fait cela. On a créé une société privée qui est en fait directement contrôlée par une organisation publique mais qui dépend du roi, parce qu'en Jordanie, il y a un roi. Et donc c'est le fonds Abdallah II pour le développement, cette organisation publique, qui crée une société, une sorte de succursale locale, qui gère le périmètre de zone industrielle où on va créer ces usines. Et donc, en fait, il y a une sorte de nouvelle gouvernance qui se met en place, parce que ça c'est un schéma qui est assez récent, qu'on va qualifier de néolibéral, où donc, on confie à des acteurs privés des nouvelles logiques d'action et des nouveaux objectifs sur des entités du territoire qui sont délimitées avec de nouvelles règles finalement de fonctionnement. Et donc, c'est assez intéressant de voir que ce schéma de gestion territoriale, que j'appellerais donc néolibéral, assez clair, et il correspond d'ailleurs à d'autres types d'initiatives qu'on observe en Jordanie ou au Liban, ou de privatisation de projets urbains. Mais en général, c'est justement pour des projets urbains, immobiliers. Là, c'est assez intéressant de voir que c'est pour du développement économique, et là, en plus, du développement urbain durable. Développement durable, il s'agit juste de créer des usines à un endroit particulier, des usines qui sont durables, mais c'est développement urbain durable, c'est limite. On est bien dans ce que je disais tout à l'heure, une sorte de difficulté d'appréhender le développement urbain durable.
Et ce schéma néolibéral, il a été adopté spontanément ou c'est une adaptation qui est due aux bailleurs de fonds.
Alors là, je pense que ce n'est pas spécialement dû aux bailleurs de fonds. C'est un schéma qui est donc utilisé pour les projets de développement urbain à Amman, par exemple, ou les projets de développement touristique à Aqaba, en Jordanie. Donc l'idée est qu'on crée des sortes d'enclaves qui sont du coup en dérogatoire du point de vue des règles d'aménagement, où on confie à des acteurs privés un rôle de coordination de ces ouvrages, à charge pour eux d'attirer des acteurs, des investisseurs privés. Et là, en l'occurrence, des investisseurs privés pour l'immobilier qui ne sont pas des investisseurs privés du style, qui ne sont pas des organisations internationales. Donc là, c'est un schéma qui n'est effectivement pas spécialement lié à des injonctions précises de la Banque mondiale ou du FMI, etc. Non. Et c'est un schéma que justement on observe aussi bien au Liban que dans d'autres pays du sud de la Méditerranée. Et là, on n'est pas dans une logique liée à l'injonction des bailleurs de fonds, on est dans une logique de libéralisation de la part des régimes, avec d'ailleurs des connexions en général assez claires entre les pouvoirs autoritaires, royaux, etc., présidentiels de ce pays, et une sorte d'élite économique qui va être le premier bénéficiaire de ces investissements, parce qu'ils vont avoir le droit d'investir, ils vont retirer un peu les mains du feu, etc. Donc il y a une sorte de connivence aussi avec les élites locales. Alors, le dernier point que je mentionne, les effets socio-spatiaux de la transition, bon, ça c'est un truc qui n'est pas encore réalisé, que j'aimerais faire, que j'aimerais étudier. Comme je vous ai dit, le gaz naturel apparaît comme un élément important de cette transition énergétique, et ça se traduit notamment en Tunisie par l'introduction du gaz de ville. Ils sont en train de mettre en place des réseaux de gaz de ville, qui sont confiés en l'occurrence à des opérateurs publics, hein, en Tunisie en tout cas. Alors, moi j'aimerais, je trouve que ce serait très intéressant d'étudier ça en essayant de voir quels sont les effets sociaux et spatiaux de ce nouveau service urbain, finalement, pour le chauffage et la cuisine, etc. Parce que ça va avoir des implications très importantes sur le mode de vie. Il faudra changer les instruments de la cuisine, changer les systèmes de chauffage. Et alors, c'est présenté comme quelque chose de plus économique, d'un point de vue extérieur, mais ça va poser des problèmes d'adaptation importants. Et voilà. Un petit peu comme on s'interroge aujourd'hui en France sur comment le passage au solaire, les dispositifs d'isolation peuvent avoir des effets pervers en termes de bénéficiaires qui seraient plutôt des personnes aisées. Là, de la même manière, je m'interroge sur la manière dont ça va se passer. Alors, il y a un étudiant de l'IUN qui est en Tunisie actuellement. Je vous avais fortement suggéré d'aborder cette question-là, mais j'ai aucune nouvelle depuis qu'il est parti, donc je suis un peu inquiet. Mais j'aimerais beaucoup.
Moi, j'en ai vu. Et il avait l'air un peu perdu.
Donc, oui, mais en même temps, il.
C'est Fabien Grossier.
J'ai envoyé plusieurs mails et il n'a pas répondu.
Ah bon?
Ouais.
Ah ouais.
Mais bon, je dois. Donc je le recontacte. Mais enfin bon, voilà. Alors, pour finir, donc quelques questions donc, ou quelques conclusions générales hein, de ces remarques. Il me semble important tout d'abord de bien combiner l'entrée urbaine, proprement urbaine, avec des dispositifs et des projets urbains, et entrée sectorielle. Là, en l'occurrence, à travers l'exemple des réseaux, j'ai montré ce que ça pouvait donner, même si pour qu'on tire un peu, il me semble que ça permet de croiser le regard sur l'objet développement durable et d'introduire du coup d'autres logiques, du coup de ne pas se limiter aux effets de mode, et de rentrer dans des questions, des logiques d'opérateurs qui sont tout à fait intéressantes. Alors, à partir de là, un des gros enjeux, c'est la question donc, de la territorialisation de l'action publique. On se trouve à la croisée de plusieurs mécanismes les transformations qu'introduit l'exigence du développement durable. Il y a en partie l'idée de décentralisation technique, comme je l'expliquais tout à l'heure avec la question de l'eau, à travers aussi ces petits opérateurs d'électricité. Et comment est-ce qu'on articule ça avec d'autres éléments du rescaling? Il y a des éléments qui sont relatifs aux quantité de gestion, périmètre de gestion hein, de ces services, de ces réseaux, ou de ces problèmes. Et quelle est l'articulation aussi avec les transformations des pouvoirs, des jeux de pouvoir sur le plan politique. L'idée est d'articuler, d'essayer d'articuler ces différents mouvements. Donc réforme territoriale, on va dire, et puis réforme de la territorialisation de certains projets, de certaines logiques de fonctionnement urbain. Autre point qui doit être examiné, c'est l'impact de ce développement urbain durable, de ces nouveaux objectifs de politique publique en termes de redistribution sociale et territoriale. Donc là, j'ai essayé d'illustrer à travers quelques exemples dans le domaine des services urbains. Clairement, dans le cas tunisien, l'extension des services publics, c'est une forme de redistribution, d'intégration sociale et politique. Mais par exemple, dans le cas du gaz, on pouvait avoir des effets inverses. D'où ce que je dis, c'était l'idée de réfléchir à ces questions-là en termes de redistribution sociale et territoriale. Et puis, dernier point que j'ai un peu aperçu à travers la mise en évidence et de la force de la pensée réseau, c'est qu'il y a une sorte de rationalité technique et professionnelle qui peut éventuellement faire obstacle à l'introduction de nouvelles technologies, de nouvelles approches inspirées du développement urbain durable. Donc là aussi, c'est un point que on peut cibler comme un point relevant de l'analyse.
Dans quelle mesure ce dernier point comment ce dernier point je suis sûr de...
Eh bien, quand on parle de nouveaux dispositifs, de nouveaux procédés de gestion qui sont liés, qui permettraient de traduire en acte le développement urbain durable, on peut se heurter aux logiques techniques dominantes dans le milieu professionnel. Donc, l'exemple que je donnais, c'est celui des réseaux. Dans le domaine des réseaux, les ingénieurs de gestion de réseaux hydrauliques ils ont beaucoup de mal à intégrer les réservoirs d'eau de pluie. Donc le principe d'une gestion décentralisée, voire hors réseau, dans leur schéma de pensée. Pour des raisons diverses que j'ai mentionnées, notamment sanitaires, pour des raisons de coût aussi. Alors, est-ce que dans d'autres... dans le domaine de l'électricité, c'est pareil. Les ingénieurs des sociétés d'électricité du Liban, ils ont extrêmement beaucoup de difficultés à imaginer que on puisse avoir des tout petits opérateurs et qu'ils puissent jouer un rôle, alors qu'il y a des propositions en ce sens.
Mais cette opposition, on la retrouve aussi en France.
Oui, voilà, mais oui,
dans les politiques de transport, avec les nouveaux experts des bureaux, nouvelles solutions de mobilité, altermobile, etc. Et puis les bureaux d'études transport,
oui,
quoi.
Oui. Non, mais typiquement, je ne sais pas, des trucs de gestion d'eau de pluie et tout ça, ça se trouve ici. Oui, je ne sais pas. Comment les nouveaux idées, comment les se heurtent avec les gens qui ont toujours un peu qu'ils avaient trouvé la meilleure solution, là, dans le cas précis. Si on veut se mettre un coup.
Donc voilà, enfin, voilà quelques enjeux que je vois. Ouais, mais je pense que c'est intéressant d'avoir là vos réactions au-delà des quelques petits points de détail. C'est vrai que comme c'est souvent très différent comme schéma d'action, comme dispositif, c'est vrai que ça c'est nécessaire d'avoir des éclaircissements. J'ai voulu pas trop détailler les aspects techniques.